France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
20 ans, voilà 20 ans qu'à la tête de son ensemble les paladins, Jérôme Correas explore la théâtralité de la musique en empruntant des chemins souvent peu fréquentés, en exhumant aussi des ouvrages peu joués. Cette fois, le chef revisite Monteverdi avec Orfeo 50-63, on va voir si je prononce correctement, aux côtés du vidéaste et plasticien Guillaume Marmin. Le spectacle sera donné ces jours-ci à 50 ans en Yvelines, Corbeil-Essonne et Massy. Et puis double actualité, un disque Handel avec sa complice de longue date, Sandrine Piau. La semaine prochaine, double actualité et un invité pour débuter la nouvelle année. Bonjour Jérôme Correas et bonne année à vous.
Merci.
Et merci d'être là ce matin dans le studio
aussi.
De France Musique. Et puis bonne année et bon anniversaire puisque vous avez passé le cap des 20 ans avec les paladins. Comment ils ont évolué, vos paladins, en deux décennies?
Alors écoutez, moi je suis pas très anniversaire, donc je n'arrive pas à faire un bilan sur le passé. M'intéresse pas beaucoup, je préfère l'avenir, surtout en ce moment. Je pense que c'est plutôt positif de penser ainsi, mais c'est vrai qu'il y a toute une évolution et qu'on n'est pas la même, on n'est pas le même et on ne fait pas la musique de la même façon que 20 ans auparavant, et ça c'est intéressant de le considérer, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant de créer, de susciter des collaborations qui soient différentes et qui nous fassent également avancer.
On va y venir. Pourquoi les paladins d'ailleurs? Il y a Rameau.
Alors oui, il y a Rameau, mais surtout ce qui me plaisait, c'est que les paladins sont des redresseurs de tort, des chevaliers errants. Ils défendent la veuve et l'orphelin, ils s'attaquent à l'injustice, et voilà, on vit dans un milieu qui n'est quand même pas très facile. Et j'aimais bien le fait que même s'ils échouent, hein, ils échouent toujours les paladins à la fin, mais quand même ils ont essayé, j'aimais bien cette idée.
J'espère que vous n'allez pas échouer, un milieu pas très facile, ça veut dire qu'il y a une grosse concurrence entre ensembles qui font le même répertoire, parce que quand je pose la question, souvent des invités ici ils disent non, pas du tout.
Ah bon? Non, mais je pense que dans tous les milieux ultra spécialisés, tous les milieux ultra spécialisés de haute technicité sont très durs. Vous prenez le sport, vous prenez la science, on le sait bien en ce moment. Vous prenez tous les milieux dans lesquels il y a beaucoup d'enjeux, les milieux artistiques évidemment, la politique n'en parlons pas. Donc je pense que c'est normal que ce soit effectivement extrêmement dur, extrêmement compétitif, bien sûr.
Donc le milieu de la musique baroque est un milieu dur et compétitif.
Ben, bien sûr, bien sûr.
Allez, un petit peu avant le baroque. Voici un autre anniversaire, vous qui n'aimez pas les anniversaires, Molière, Lully.
Toi qui peux ronde agréable. Les visages les plus mal faits répandent, Vénus, de tes attraits, deux ou trois doses charitables sur ce
un extrait de la pastorale comique, musique de Jean-Baptiste Ulli et texte de Jean-Baptiste Poquelin, Molière, ici avec les Paladins, dirigé par notre invité ce matin, Jérôme Correa. C'était un très beau disque paru il y a quelques années maintenant, Molière et l'opéra. Alors même si on va parler de bien d'autres choses, qu'est-ce qu'ils ont inventé tous les deux, Molière et Ulli?
Ah, ils ont tout inventé. Ils ont inventé le spectacle total, qui est d'ailleurs mon fantasme absolu et après lequel je cours beaucoup. C'est ce spectacle, ce mélange de différents arts. C'est l'artiste complet qui est capable de chanter, de danser, de dire la comédie, de faire du mime. C'est tout ce qu'étaient justement Molière et Lully, c'est-à-dire des hommes de scène, des hommes qui savaient construire un spectacle et qui justement, quand ils ont travaillé ensemble pendant ces 10 ans, ont travaillé à l'éclosion d'un spectacle qui a fait des petits ensuite, hein, parce que la comédie musicale, c'est ça, l'opérette, bien sûr, donc c'est vraiment le divertissement par excellence, et je pense que ça reste un modèle d'actualité, malgré 300 ans qui ont passé.
La musique qui fait partie intégrante de la dramaturgie du spectacle. Je signale d'ailleurs qu'à propos de Lully, vous donnerez Phaéton à Nice, à l'Opéra de Nice, en mars.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je remercie beaucoup l'Opéra de Nice et Bertrand Rossi, son directeur, de croire en ce projet, parce que faire un opéra de Lully aujourd'hui, et ça reste une grande aventure. C'est une collaboration avec un metteur en scène. Ici, ce sera Eric Oberdorf qui est chorégraphe. Donc, je pense qu'ils ont compris effectivement l'imbrication entre les différents arts, entre la danse, le chant, l'orchestre, le théâtre, la scénographie, etc. Et c'est toujours très excitant de se lancer comme ça dans une aventure. Un opéra de Lully, c'est pas un opéra comme un autre. C'est une énorme architecture qu'il faut faire tenir debout. Donc c'est évidemment passionnant.
Rendez-vous en mars à l'Opéra de Nice pour ce phaéton. Jérôme Correas, d'ici là, c'est beaucoup plus proche, c'est la semaine prochaine. C'est d'ailleurs dès cette semaine, d'abord à Saint-Quentin en Yvelines au théâtre, puis le 15 janvier à Corbeil-Essonne et le 16 février à l'Opéra de Massy. C'est Orfeo 506 350 63 5063, je ne sais pas comment il faut prononcer. Comment est né ce projet?
Alors, ce projet est né déjà de la découverte des œuvres de Guillaume Marmin, qui est un vidéaste dont j'ai découvert donc le travail, que j'ai trouvé très poétique, et surtout cette science qu'il a de l'espace. Pour moi, la musique est un espace. Pour moi, la musique se voit autant qu'elle s'entend. Et ça m'a tout de suite frappé, et j'ai tout de suite trouvé des correspondances avec ma sensibilité, même si lui opère vraiment dans un contexte visuel très très contemporain. Et je me suis prêt à rêver ce que ça donnerait d'un clash entre un répertoire baroque et son univers. Et on s'est rencontrés, on a discuté. Donc c'est quelqu'un qui est très justement attiré par des musiques classiques. Et je lui ai fait découvrir du Monteverdi, et il a totalement accroché. Il a même été passionné par ces musiques, qu'il a trouvé en même temps très charnelles et très spirituelles. Et c'est, à mon avis, exactement cette problématique-là, Monteverdi, c'est-à-dire c'est théâtral et en même temps très transcendant. Donc c'est cosmique. Donc on est parti sur une aventure de rencontre entre la vidéo et la musique baroque, mais pas n'importe quelle musique baroque, puisque Monteverdi, c'est vraiment une révolution, c'est le début de la musique baroque, c'est le début de la théâtralité, c'est le début de ce discours baroque qui voilà. Donc on est à l'époque de Monteverdi, dans une époque nouvelle, un petit peu comme aujourd'hui, et voilà, ça nous a amusé de tisser des liens entre ces deux époques.
Et puis dans cette musique-là, dans ce choix de musique-là aussi, l'espace.
Exactement, il y a l'espace, il y a ce côté cosmique justement, il y a les grandes découvertes à l'époque, hein, il y a Copernic, il y a voilà ce système solaire qui est omniprésent dans les considérations de l'époque et qui va être très présent également dans notre
travail. Alors 50-63, pourquoi ? Comment on prononce d'abord ?
Alors comme vous voulez, parce que j'ai pas interrogé les astronautes, mais en fait c'est un hasard incroyable puisque on cherchait un titre, on savait que le héros qui est un drone allait sans doute s'appeler Orfeo, parce que Orfeo est un voyageur, il passe dans d'autres mondes, il transgresse un peu les interdits, et on s'est rendu compte qu'il existait une ceinture d'astéroïdes qui reliait Mars à Jupiter, et que les scientifiques, en hommage à ce mouvement qui va de l'avant et vers l'inconnu, avaient appelé cette ceinture d'astéroïdes Monteverdi 5063. Alors ne me demandez pas pourquoi, il y a peut-être 5063 morceaux, j'en sais rien. En plus, je suis nul en sciences, c'est pas du tout mon domaine. Mais tout d'un coup, on s'est dit, mais c'est incroyable, Monteverdi justement, 5063, et avec le côté un peu mystérieux, un peu magique du chiffre dont on ne comprend rien, on s'est dit, tiens, Orfeo 5063, ça sera en même temps ce voyageur qui a un numéro et qui part un peu pour visiter le monde tel qu'on pourrait peut-être le laisser dans le futur.
Orfeo 5063, on en reparle dans un instant, vous n'avez pas enregistré Monteverdi, pas encore, mais Rossi, oui. De Rossi, contemporain de Monteverdi, d'où est la bras di rosé, ce qui veut dire Jérôme Correas.
Deux lèvres couleur de rose. On est dans la poésie baroque, là.
Les lèvres de Monique Zanetti et de Barbara Cousa sur ce disque. Orfeo 5063. Donc vous dites comme ça. Ces jours-ci en Ile-de-France, à Saint-Quentin en Yvelines, puis Corbeil-Essonne, puis l'Opéra de Massy. Avec, on se le disait en écoutant la musique, c'est un peu comme ce dessin animé qu'on voyait quand on était petit, Ulysse 31. Il y a un côté un peu à la fois antique dans le nom et puis le côté futuriste.
C'est ça, c'est le passé, l'avenir, exactement.
Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va voir dans ces images ? Je vous ai parlé d'un drone. Alors, il y a une histoire.
Oui, alors c'est le voyage d'un drone qui filme, qui visite différents endroits de la Terre, différentes créations, soit naturelles, soit humaines. Donc on va voir par exemple des statues, on va voir des statues englouties à Lanzarote, aux Canaries, englouties sous la mer. On va voir la grotte de Lascaux, on va voir des statues à Versailles, on va voir des créatures dont je ne parle pas, mais qui sont pas très bienveillantes et qui peuvent faire penser aux enfers, aux créatures des enfers. On va voir des gens, des personnes qui se déplacent dans des paysages désolés, qui se déplacent un petit peu comme dans certains jeux justement vidéo. C'est tout un voyage qui va à la découverte d'un monde qui serait presque post-apocalyptique.
Mais sans narration.
Sans narration, la narration elle se reconstitue au début et elle est fournie d'une part par le montage musical et par évidemment les chanteurs et les instrumentistes, mais en particulier nous sommes tous sur scène et les chanteurs effectivement eux effectuent un trajet en rapport avec ce qui se passe sur l'écran. Il y a des interactions, justement, on s'est beaucoup amusé à essayer de justement transformer un petit peu la musique grâce à ce dialogue-là, des interactions donc entre ce qui se passe sur l'écran, ce qui a été parfois enregistré comme musique et filmé, et ce qui va se passer en direct. Donc il va y avoir aussi l'irruption de certains sons cosmiques, de certains sons naturels ou pas, qui vont se mélanger parfois à la musique. Et donc toute l'idée là, c'était de voir comment faire évoluer l'interprétation, aller plus loin, mettre en valeur quand même cette musique sans la défigurer, mais la faire dialoguer avec de la matière, du son contemporain.
Vous dites sans la défigurer, Jérôme Coréas, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque que l'image soit plus forte que la musique, que le son et que les spectateurs ne soient que sur l'image et oublient la musique? Est-ce que c'est un risque que vous avez en tête?
Alors, on n'a pas du tout pensé à ce risque-là parce que je pense que la musique de Monteverdi est tellement forte chemin faisant. Vous savez, quand vous faites un digest, finalement, vous ne prenez que les meilleures choses. Et il y a eu même un moment, on s'est dit non mais trop de choses sublimes, ça va pas aller, c'est trop quoi. Donc de temps en temps, il faut quand même quelque chose d'un peu plus léger, d'un petit peu plus normal, et pas seulement des sommets de la musique. Parce que quand vous prenez des extraits des Vêpres, qui sont quand même extraordinaires, surtout le Magnificat, des extraits du Couronnement de Poppée, des extraits de Madrigaux du 8e livre, qui sont incroyables, c'est une musique contemporaine parfois. Voilà, c'est ou d'Orfeo d'ailleurs également. Qui est en son temps une musique très contemporaine. Je pense que la musique est tellement forte que c'est justement cette force qui va dialoguer avec la force des images qui sont magnifiques et qui va créer quelque chose, une étincelle. On ne s'est pas du tout posé cette question d'une faiblesse de la musique.
Est-ce que comme à l'opéra, où vous suivez ce qui se passe sur la scène, vous allez interpréter différemment la musique en fonction de l'image et en fonction de l'écran?
Oui, bien sûr, puisque c'est de l'humain et que les 6 chanteurs présents sont des êtres qui vont d'une soirée à une autre réagir différemment. Le timing va être sans doute un petit peu différent. Les inflexions de la voix et des instruments vont être certainement différentes en fonction de beaucoup de choses, en fonction de la force de ce qu'on ressent. Alors c'est justement la chose qu'on va voir ou entendre, mais aussi notre ressenti. Et c'est là qu'est très intéressant ce dialogue entre l'homme et la machine, puisqu'on dit oui, effectivement c'est un drone donc c'est une machine, oui mais c'est quand même interprété par l'homme, ressenti par l'homme, et tout est exactement dans le débat actuel, dans les rapports entre l'homme et la machine, c'est toujours très très ambigu et très riche.
Orfeo, 5063 à Saint-Quentin-en-Yvelines, vendredi et samedi, le 15 janvier la semaine prochaine à Corbeil-Essonnes, le 16 février à l'Opéra de Massy, Jérôme Coréas à la tête des Paladins et Guillaume Marmin pour cette création vidéo. Autre actualité, Handel, Sandrine Pio et toujours Jérôme Coréas. Handel, un air de Rinaldo avec Sandrine Pioux, Les Paladins, dirigé par Jérôme Correa. C'est une avant-première. Le disque sort la semaine prochaine chez Alpha Classics. Enchanteresse ou Enchantresses en anglais, comme a choisi de donner en titre le label Alpha Classics. Alors, on va pas en dire énormément sur ce disque, Jérôme Correa, parce que Sandrine Pioux, elle va venir dans 15 jours nous en parler également. Mais je voudrais que vous nous parliez un petit peu d'elle. D'ailleurs, c'est une complice musicale de très longue date, Sandrine Pioux.
Tout à fait.
Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais vous êtes, vous avez été chanteur.
Absolument, bah oui, on a fait nos débuts ensemble et on doit ses débuts à William Christie qui nous a vraiment permis de, alors que nous étions très très jeunes et très très débutants, qui nous a fait vraiment confiance et qui nous a entraîné dans des aventures absolument invraisemblables tout autour du monde et qui nous a donné vraiment le goût de ce métier et je dirais du travail bien fait, on lui doit beaucoup. Et c'est vrai que grâce à lui, le fait de visiter un certain nombre de répertoires très très variés, de nous dépasser, d'essayer de vivre intensément vraiment la musique, c'est quelque chose qui nous a forgé. Et finalement, nous avons continué, elle et moi, à un petit peu explorer tous ces aspects-là différemment. Et c'est ça qui est intéressant justement. Et ce disque-là en est justement un exemple. On avait déjà, il y a une dizaine d'années, fait un disque qui s'appelait Le Triomphe de l'amour chez Naïve, qui était un disque de musique française. Et là, donc, on avait envie de faire un disque consacré à Handel. Comment faire Handel à notre façon.
Voilà. Qu'est-ce qui vous lie tous les deux, Sandrine Pioux et vous?
Certainement beaucoup de défauts, le fait quelques qualités j'espère, non mais le fait certainement de n'être jamais content de ce qu'on fait, ça c'est sûr qu'on nous sommes d'incorrigibles
perfectionnistes.
Parfois vraiment je trouve qu'elle exagère et j'exagère aussi d'ailleurs, très critique avec nous-mêmes, mais c'est vrai aussi que on s'est trouvé dans cette recherche du son et de recherche aussi du mot, de la théâtralité, et ses expériences à elle ont nourri les miennes et vice-versa.
Le son de sa voix, comment a-t-elle évolué ?
Alors moi, c'est une voix que j'ai toujours qualifiée d'argentée. Donc elle lève les yeux au ciel quand je dis ça, parce qu'elle elle n'aime pas sa voix
comme beaucoup de chanteurs et chanteuses.
Voilà, c'est ça. Bonne chanteuse qui se respecte, mais c'est une voix très lumineuse et très très souple, très ductile. Elle a gardé d'ailleurs cette souplesse là, et cette souplesse là, c'est un petit peu comme, vous savez, comme des reflets argentés dans de l'eau. Voilà, c'est du mouvement, c'est de la vie.
Et la vôtre, voix, pourquoi vous ne chantez plus? Vous n'avez plus le temps? Vous n'avez plus envie?
Alors, vous savez, en France, c'est difficile de faire deux choses différentes.
Voire trois, parce que vous faites du clavecin aussi. Enfin, vous faites le continuo.
Oui, mais finalement, tous les chefs baroques viennent du clavecin. Et c'est vrai que c'est c'est la voix la plus facile et la plus intéressante, puisque ça donne la vision harmonique de la musique. J'ai dû décider de ne plus chanter parce que c'est une question d'emploi du temps, hein, tout simplement.
Bon, bah, écoutez. Chanter Sandrine Pio pour se quitter avec un autre extrait de ce disque en avant-première, Händel. Un tube pour finir, un extrait d'Alcina avec Sandrine Pio, Les Paladins, dirigé par Jérôme Correas, notre invité ce matin. Merci beaucoup. Ça sort la semaine prochaine, donc le 14 janvier exactement, chez Alpha Classique. C'est rendez-vous pour Orfeo 5063 à la fin de la semaine à Saint-Quentin-en-Yvelines et un petit peu plus tard dans le mois à Corbeil-Essonne et à Massy. Merci Jérôme Correas.
On croise les doigts. Merci à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.